الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو الثاني من شهر ربيع الأول عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدرس هو الثاني عشر في شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 10 novembre 2018 et nous nous sommes réunis pour le 12e cours de l'étude du livre Al-Ubudiyya, la servitude de l'imam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous nous sommes arrêtés après avoir montré l'égarement de ceux qui ont dit que puisqu'il y a la foi au destin, au fait que toute chose a été décrétée par Allah, décidée au préalable, subhanahu wa ta'ala, il n'est plus nécessaire de faire les causes pour obtenir les résultats recherchés. Et nous avons vu la gravité de cette parole et son égarement. Car Allah subhanahu wa ta'ala a décrété toute chose, certes, mais il a aussi décrété les causes. Toutes choses qui sont des effets ont des causes. Allah Azza wa Jal a décrété et créé les effets, tout comme il a décrété et créé les causes. Subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas dire « Je veux avoir des enfants, mais je ne fais pas les causes. Je n'ai pas de rapport ou je ne me marie pas. Et si Allah me l'a décrété, j'en aurai. » Ces gens-là vont même jusqu'à dire qu'il n'y a pas besoin d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, de demander à Allah ce que tu recherches. Car d'après eux, si Allah a décrété pour toi cette chose, tu n'as pas besoin de l'invoquer. Cette chose va t'arriver. Alors que l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est une énorme adoration. Même si Allah ne donne pas ce que tu lui demandes, le simple fait qu'elle est une adoration est largement suffisant pour ne jamais cesser de l'invoquer, subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, pardon, Ibn Taymiyyah, nous dit « وَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ قَدْ تَتْرُكُ الْمُسْتَحَبَّاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ دُونَ الْوَاجِبَاتِ فَتَنْقُصُ بِقَدْرِ ذَلِكَ » Après nous avoir montré que les causes sont des adorations d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah nous a ordonné de rechercher auprès de lui la subsistance, de faire les causes, d'œuvrer pour obtenir ce que l'on recherche. Eh bien, il y a des gens qui délaissent les causes. Ils ne comprennent pas qu'en délaissant les causes, ils ont délaissé une grande adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a parmi ces gens qui sont égarés, cités par l'auteur, rahimahullah, un groupe de personnes qui délaissent les actes recommandés et appliquent les actes obligatoires. On a vu en premier qu'il y a ceux qui délaissent complètement tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui commettent les interdits. Il y a d'autres personnes qui, eux, délaissent les actes recommandés et applique les obligations. فَتَنْقُصُ بِقَدْرِ ذَلِكَ. Proportionnellement à cela, leur degré diminue. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit مَنْ لَا يَتْرُكُ الْأَسْبَابَ كُلَّهَا. Parmi ces gens égarés dont l'auteur parle, rahimahullah, il y en a qui n'abandonnent pas toutes les causes. Ils n'abandonnent pas toutes les causes. Les causes sont des adorations, n'est-ce pas? Il y en a parmi les gens qui abandonnent toutes les causes. Et d'autres qui n'abandonnent pas toutes les causes. Ils font les actes obligatoires, mais par contre ils délaissent les actes recommandés. Alors que les actes obligatoires sont des causes pour obtenir des résultats, tout comme les actes recommandés le sont aussi. Eux, dans leur égarement par rapport à ceux qui sont avant, ont une différence. Ceux qui ont été cités avant eux, ils délaissent tout, toutes les causes, notamment celles qui sont obligatoires et celles qui sont recommandées. Alors que ceux-là, les derniers dont nous parlons maintenant, ils ne délaissent que ce qui est recommandé, en dehors de ce qui est obligatoire. وَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ يَغْتَرُّونَ بِمَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ خَرْقِ عَادَةٍ مِثْلَ مُكَاشَفَةٍ أَوْ إِسْتِجَابَةِ دَعْوَةٍ مُخَالِفَةٍ لِلْعَادَةِ الْعَامَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ يُشْغَلُ أَحَدُهُمْ عَمَّا أُمِرَ بِهِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالشُّكْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذِهِ الْأُمُورُ ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت كما قال الزهري كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. Ibn Taymiyyah rahimahullah continue et nous dit qu'il y a aussi parmi ces gens-là d'autres qui eux sont complètement trompés comme ça là. Ils sont trompés et induits en erreur par des choses qu'ils voient se faire devant eux qui sortent de l'ordinaire, ce que l'on appelle kharqu 'ada, quelque chose qui sort de l'extra de là, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui n'est pas habituel, quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir dans le courant de la vie de l'homme. Ils sont trompés par cela, et ça c'est ce que l'on retrouve chez le soufisme, et c'est de ça que parle l'imam rahimahullah. Ils sont trompés par cela, et ils sont distraits, et ils disent un tel a eu tel miracle, un tel a eu tel miracle, avec sa main il a fait un geste et la voiture s'est déplacée et l'accident n'est pas arrivé, et j'en passe. Et si on lisait tout ce qu'il y avait dans les ouvrages de soufisme, vous poserez la question: comment est-ce que l'on peut faire pour croire à ce genre de choses? Voilà, iyadu billah. أو استجابة دعوة مخالفة للعادة. Ou alors ces gens-là sont trompés par la réponse qui a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala à une invocation qui n'est pas habituelle. De quoi est-ce qu'il parle dans tout cela? Le Cheikh Salah Al-Fawzan hafidhahullah nous dit: parmi les causes de la réussite, min asbab an-najat, les causes menant au salut, mukhalafatu ha'ula wa at-tamassuk bis-sunnah, le fait de contredire ces gens-là, de ne pas avoir la même croyance qu'eux, de ne pas les suivre et de s'attacher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salat wa salam a dit: fa innahu man ya'ish minkum, ceux qui vivront parmi vous, فَسَيَرَا, ou celui qui vivra parmi vous, فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا, assistera à de nombreuses divergences. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ, accrochez-vous alors à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. تَمَسَّكُوا بِهَا, cramponnez-vous-y. وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ, et mordez-y avec vos molaires. Le Cheikh Al-Fawzan nous dit: فعند ظهور الفتن والشرور لا نجاة إلا بالتمسك بالسنة. Lors de l'apparition des troubles et des maux, il n'y a de salut que dans le cramponnement à la sunna. Et ce qui est voulu par les troubles ici, c'est un terme général. Et parmi les troubles, il y a justement ce que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité. Qu'est-ce qu'il a cité? Des choses qui se font, qui sortent de l'ordinaire. Combien de gens ont été trompés par cela? Ils ont été trompés parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ils en ont déduit qu'il fallait faire telle et telle action, qu'il fallait suivre cette personne. de laquelle on a vu quelque chose qui sort de l'ordinaire, sans au préalable peser cela sur la balance du Coran et de la Sunna. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque des troubles apparaissent? Se cramponner à la Sunna. وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَسْبَابِ الَّتِي أَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Le cramponnement à la Sunna fait partie des causes les plus importantes enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمِنَ الْمُغَالَطَةِ أَنْ يَقُولَ الْإِنسَانِ إِنْ كُتِبَتْ لِيَ الْهِدَايَةُ اهْتَدَيْتُ وَإِنْ كُتِبَتْ لِيَ الضَّلَالَةُ ضَلَلْتُ وَيَتْرُكُ التَّمَسُّكَ بِالسُّنَّةِ. Parmi les grandes erreurs de certains, ceux qui disent « Si la guidée m'a été décrétée, je serai guidé. Si l'égarement m'a été décrété, je serai égaré. » Et qu'est-ce qu'ils font? Ils délaissent le cramponnement à la sunna. Regardez à quoi amène la mauvaise croyance. Ces gens-là qui n'ont pas la bonne compréhension de la foi au qadar, de la foi au destin, ils ont dit « Allah a décrété ». On ne peut pas éviter ce qu'il a décrété. Et puisque l'on ne peut pas éviter ce qu'il a décrété, je dis que si Allah a décrété de toute façon pour moi la guider, je serai guidé. Et s'il a décrété pour moi l'égarement, je serai égaré. Donc qu'est-ce qu'ils en déduisent de cela? Je n'ai pas besoin de faire les causes. Je n'ai pas à demander à Allah de me guider. Je n'ai pas besoin de me repentir. Je n'ai pas besoin d'étudier la science. Je n'ai pas besoin de faire des efforts, puisque si c'est décrété, c'est décrété. Voyez à quoi est-ce que cela amène. Et ça, c'est un grave égarement. Et c'est pour cette raison que les imams de la sunna disaient As-sunnatu safinatu nuh. La sunna est comme l'arche de Noé alayhi salam, Nuh alayhi salam. Man rakibaha naja. Celui qui monte à bord sera secouru. وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقْ. Et celui qui s'absente, qui ne monte pas à bord, va se noyer. Subhanallah. Cette parole qui a été prononcée par l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, te résume la compréhension de l'islam que tu dois avoir. Qu'est-ce que tu dois avoir comme compréhension de l'islam? Que toute autre chose que la sunna, c'est la noyade. Et que il n'y a qu'une seule chose pour te sauver, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dès lors que quelqu'un œuvre dans ce qui ne fait pas partie de la sunna, ça sera pour lui une noyade. Une noyade dans l'égarement, dans l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dès lors que la personne se cramponne à la sunna, ça sera pour lui le salut. Et là, on ne regarde pas la personne qui fait. On ne regarde pas le nombre de personnes qui font. On regarde le cramponnement à la vérité. Imagine-toi, 1 millier de personnes, toutes dans l'eau, au milieu de la mer. Une barque passe près d'eux. Un parmi ces 1000 personnes monte à bord de la barque. Il va être sauvé. Et les 999 vont couler, n'est-ce pas? Ils vont se noyer et donc mourir. Est-ce que l'on va dire qu'il faut suivre les 999 parce qu'ils sont plus nombreux? Non. On va réfléchir où est le secours, sans regarder le nombre de gens qui suivent ou ne suivent pas. Ce qui nous intéresse, c'est le secours. Où est le salut et le secours dans notre religion? C'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, sans regarder le grand nombre de gens qui se noient dans la bid'a, qui se noient dans le shirk. Wal'iyadu billah. Et c'est pour cette raison que les salafs ont toujours dit, al-i'tisamu bis sunnati najah, alaykum salam. Le cramponnement à la sunna est un salut. Le cramponnement à la sunna est un salut. Non pas à un tel ou à un tel parmi les hommes sujets à l'erreur, qui peuvent avoir juste ou se tromper. Le cramponnement à la sunna, le fait de tout ramener à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et puis le Cheikh Al-Fawzan a cité l'histoire de Nuh alayhi salam. Lorsque Nuh a dit à son fils, Ya bunay yarkab ma'ana, wa la takum ma'al kafirin. Ô mon enfant, monte à bord avec nous, et ne sois pas du nombre des mécréants, ceux qui n'ont pas cru en nous, alayhi salam. Qu'est-ce que son fils a dit? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. Il a dit, je vais m'abriter sur une montagne qui me protégera de l'eau, c'est-à-dire de la noyade. Or, il n'y avait de salut que la barque sur laquelle est monté Nuh alayhi salam. Lui, le fils de Nuh alayhi salam, a cherché secours, protection autre part que sur la barque. Quelle fut sa fin? وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. La vague s'interposa alors entre deux et il fut du nombre des noyés. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé et décrété que seuls les gens qui embarquent sur cette arche seront sauvés. Et lui a cherché un secours autre part que dans cette arche. Pareil pour les gens qui cherchent la droiture autre part que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se noieront et ne pourront jamais éviter la noyade. Qu'Allah azza wa jal nous en préserve. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان أحدهما أن لا يعبد إلا الله والثاني أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع. الإمام رحمه الله نجي. L'adoration, l'obéissance, la droiture, suivre la voie droite, toutes ces appellations désignent en réalité une seule chose. Lorsque tu dis l'adoration d'Allah, l'obéissance d'Allah, le chemin d'Allah, la droiture, en réalité ça revient à la même chose. La droiture, c'est l'obéissance d'Allah. L'adoration, c'est l'obéissance d'Allah. L'obéissance d'Allah, c'est la droiture et l'adoration. L'adoration et la droiture sont l'obéissance d'Allah. Toutes ces choses-là sont des appellations diverses qui désignent une seule et même chose. C'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces choses-là ont deux bases. Deux bases sur lesquelles elles reposent et sans lesquelles elles ne seront pas acceptées par Allah. Subhanahu wa ta'ala. Toutes les actions que tu fais, toutes les paroles que tu veux prononcer ne seront acceptées que si tu réunis avec deux conditions. La première, c'est la sincérité. La deuxième, c'est la conformité. La sincérité, c'est-à-dire faire en sorte que le but recherché ne soit rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que sa satisfaction. Lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu accomplis le pèlerinage, lorsque tu dépenses l'aumône, lorsque tu invoques, lorsque tu étudies la science, lorsque tu étudies la langue arabe, lorsque tu apprends, lorsque, dès qu'il s'agit d'une adoration, tu ne dois être poussé que par l'envie de satisfaire Allah, subhanahu wa ta'ala. Si c'est autre chose qui te pousse, alors tu es perdu. Et Allah azza wa jalla ne l'acceptera pas de toi. Car la base de la religion, c'est la sincérité. C'est la pureté de l'intention pour Allah, subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est la conformité, c'est-à-dire à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu fais un acte voulant à travers cet acte te rapprocher d'Allah, mais qui n'est pas conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il ne sera jamais accepté par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ces deux points-là qui vont être détaillés par le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala. Le premier que nous avons cité, c'est la sincérité, le fait que l'intention ne soit que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, vous l'avez compris. Deuxième, la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. de faire en sorte que ton adoration ne soit pas en réalité une innovation. Car Allah tabaraka wa ta'ala déteste et rejette les innovations, même si la personne est sincère, même si elle veut à travers cette action se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbihi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Celui qui soumet son visage à Allah tout en étant bienfaisant aura sa récompense auprès de son Seigneur, et ces gens-là ne seront ni apeurés ni attristés. Lorsque Allah Azza wa Jal dit man aslama wajhahu lillah, vous voulez une couverture? Tu veux une couverture? Donne-lui une couverture à côté de toi parce qu'il est très fatigué. Tu veux une couverture? Voilà ce que ça fait quand on s'appuie, quand on va au fond, quand on s'appuie, on garde le manteau, on croise les pieds, on croise les mains. Qu'est-ce qui te reste d'autre si ce n'est dormir? Regarde, il est à peine réveillé le frère. Les trois là, vous êtes très fatigués. Allez vous reposer, venez pas étudier. La science n'est pas faite pour les gens qui veulent dormir. La science est faite pour les gens qui veulent apprendre qui est Allah, qui est le prophète, alayhi salatu wassalam. Wallahu al-musta'an. Allah Azza wa Jal dit man aslama wajhahu lillah. Man aslama wajhahu lillah. Celui qui soumet son visage à Allah. Soumettre son visage à Allah, c'est être sincère envers lui. Car ton visage, c'est ce que tu as de plus cher dans le corps. C'est là où l'on voit apparaître la beauté, par exemple. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Eh bien, soumettre ton visage à Allah, c'est-à-dire soumettre toutes tes actions à Allah. Soumettre toutes tes actions à Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui soumet ses actions à Allah, il ne les fait que pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa huwa muhsin, tout en étant bienfaisant. Et on ne peut être bienfaisant que si l'on suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Falahu ajruhu, aura sa récompense. Donc pour avoir la récompense, il faut être sincère envers Allah Azza wa Jal et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui réunissent en eux ces deux conditions auront réussi bi'idhnillah. Et il faut délaisser tout autre que la sunna parmi les innovations. Car le contraire de la sunna, c'est l'innovation. Et l'innovation est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'aime pas voir son serviteur faire quelque chose qu'il ne lui a pas demandé ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas enseigné. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd » Quiconque fait une œuvre qui ne relève pas de notre ordre, elle lui sera rejetée. Il dit aussi alayhi salatu wa sallam « Fa'alaykum bi sunnati » Cramponnez-vous à ma sunna. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, wa iyyakum wa muhdathatil umur. Prenez garde aux choses nouvelles. Les choses nouvelles, c'est-à-dire dans la religion. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Car toute chose nouvelle est une innovation. Wa kulla bid'atin dalala. Et toute innovation est un égarement. Voyez que le prophète, alayhi salatu wa sallam, a dit que de manière absolue, toute innovation est un égarement. Et dans l'islam, il n'existe pas quelque chose s'appelant une bonne innovation. Pourquoi alors est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute innovation est un égarement? Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dès que la chose est une innovation, elle est chez Allah subhanahu wa ta'ala un égarement, et donc Allah ne l'accepte pas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que si ils ne le suivent pas, alors ce sont leurs passions qu'ils suivent. Il dit subhanahu wa ta'ala fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. S'ils ne répondent pas à ton appel, s'ils ne suivent pas ta voix, ton chemin, sache alors qu'ils ne font que suivre leur passion. Il n'y a pas plus clair que cela. فَلَيْسَ هُنَاكَ هِدَايَةٌ إِلَّا بِلِسْتِجَابَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَالتَّمَسُّكِ بِسُنَّتِهِ. Il n'y a de guidée que dans la réponse à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au cramponnement à sa sunna. Et on ne peut se cramponner à la sunna ni la suivre que si on l'apprend, que si on la comprend. Subhanallah. L'importance d'apprendre, l'importance de comprendre. Combien parmi les gens pensent qu'ils suivent la sunna alors que la sunna est innocente de leurs actions, de leurs paroles? Combien parmi les gens disent qu'ils sont dans le tawhid alors que le tawhid est innocent de leurs actions et de leurs paroles? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là pensent qu'ils sont dans le tawhid, pensent qu'ils sont dans la sunna, si ce n'est l'ignorance, la méconnaissance de la voix d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Et cela te montre l'importance de la science pour laquelle tu ne dois pas dormir, mon frère. Wallahu al-musta'an. Le Cheikh Salih al-Fawzan nous dit: ثم بعد ذلك يتمسك بها على بصيرة. Et après avoir su, connu et compris cette sunna, tu dois t'y cramponner avec clairvoyance. Quant à ceux qui ne connaissent pas la sunna, ils vont faire des choses en pensant qu'elles en font partie, alors qu'elles n'ont rien à voir avec la voix du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'au contraire, elles sont des égarements. L'imam ibn Taymiyyah rahimahullah a cité quelques versets pour argumenter en ce sens et montrer que les deux conditions d'acceptation des actions sont la sincérité et la conformité. Et le premier verset qu'il a cité est le dernier verset de la sourate Al-Kahf, où Allah Azza wa Jal dit: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, c'est-à-dire celui qui veut rencontrer Allah le jour dernier et voir qu'Allah est satisfait de lui, qu'il fasse une bonne action et n'associe rien dans l'adoration à son Seigneur. Ce sont les deux conditions d'acceptation. Celui qui espère rencontrer Allah satisfait de lui le jour dernier, il a deux choses à faire. Il doit faire une bonne action. Une bonne action sous-entend suivre la sunna. Car si tu ne suis pas la sunna, ton action n'est pas considérée comme bonne. Qu'il n'associe rien à l'adoration à son Seigneur sous-entend la sincérité. Donc le dernier verset de la sourate Al-Kahf réunit en lui les deux conditions d'acceptation des actions, qui sont la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième verset, c'est celui que nous avons déjà lu. Et le troisième verset: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Et qui est meilleur en religion que celui qui soumet son visage à Allah et est bienfaisant? Et la forme interrogative ici a été utilisée, mais ce qui est voulu en réalité, c'est la forme négative. C'est-à-dire, nul n'est meilleur. Personne n'est meilleur dans la religion que celui qui soumet son visage à Allah en étant sincère dans ses actions et qui est bienfaisant en étant conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et qui suit la voie du prophète Ibrahim alayhi salam. Et la voie du prophète Ibrahim alayhi salam, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَ الْإِحْسَانُ وَهُوَ فِعْلُ الْحَسَنَاتِ والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح ce qui est appelé al-amal al-salih, la bonne action, que l'on retrouve dans le dernier verset de surat Kahf, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. La bonne action, c'est aussi al-ihsan, la bienfaisance, que l'on retrouve dans les deux autres versets, وَهُوَ مُحْسِن, qui soumet son visage à Allah tout en étant bienfaisant. Donc, d'une part, on voit la mention de la bonne action. D'autre part, on voit la mention de la bienfaisance. L'auteur, rahimahullah, veut nous faire comprendre que la bonne action, c'est la bienfaisance. Et la bienfaisance, c'est le fait de faire des hasanat. Tout ça, c'est la même chose. Maintenant, il va nous expliquer qu'est-ce que sont les hasanat. Et nous dit, « Wal hasanat, les bonnes actions, hiya ma ahabbahu Allah wa rasuluh, sont ce qu'Allah aime, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. » Le Cheikh Salah al-Fawzan nous dit là, « Farqa bayna al-amal al-salih wa bayna al-ihsan, fala yagtar al-insanu bima alayhi al-nas. » Il n'y a pas de différence entre la bonne action et la bienfaisance. La personne ne doit pas être trompée par ce que les gens font. La personne doit regarder la conformité et la sincérité. Lorsque tu vois quelqu'un faire une bonne action, lorsque tu vois un grand nombre de personnes faire une bonne action, est-ce que le fait de voir un grand nombre de personnes veut dire que cette chose est bien? Est-ce que c'est ça la base? Est-ce que c'est la balance pour peser les actions et vérifier leur authenticité ou leur caducité? La réponse est non. La balance pour vérifier les bonnes actions, c'est la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si la bonne action, si l'action est conforme à la sunna, alors c'est une bienfaisance, alors c'est une bonne action. Alors que si cette action-là n'est pas conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un égarement et c'est une mauvaise action. Même si la plupart des gens la font. On ne doit donc pas être trompé par les aspects apparents, ni par la bonne opinion que l'on se fait de la personne. Vous comprenez? Tu ne dois pas être trompé par l'aspect apparent, ni par la bonne pensée, la bonne opinion que tu as de la personne, puisque c'est un tel, c'est sunna. Puisque un tel a parlé, puisque un tel a dit, alors c'est la sunna. Non. Tu dois regarder les preuves du Coran, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Et les bonnes actions sont ce qu'Allah et son prophète aiment, alayhi salatu wa sallam. Et comment est-ce que l'on sait qu'Allah aime? Comment est-ce que l'on sait qu'Allah aime une chose? Dès qu'il nous l'ordonne. Allah Azza wa Jal n'ordonne que ce qu'il aime. Et c'est comme cela qu'on reconnaît une adoration dans le Coran. Comment est-ce que l'on reconnaît? Dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne quelque chose, attention, que cet ordre sous-entende une obligation ou une recommandation. Car il y a des impératifs dans le Coran, des ordres donnés par Allah subhanahu wa ta'ala, qui impliquent que la chose ordonnée est une obligation. Il y a des autres ordres qui impliquent que la chose ordonnée par Allah Azza wa Jal est recommandée. Et il y a d'autres choses encore, mais ce n'est pas le sujet. Et ce que l'on doit retenir, c'est que dès qu'Allah ordonne quelque chose, que ce soit de manière obligatoire ou de manière recommandée, cette chose est une adoration d'Allah et Allah l'aime, subhanahu wa ta'ala, son prophète l'aime, sallallahu alayhi wa sallam. فَمَا كَانَ مِنَ الْبِدَعِ فِي الدِّينِ الَّتِي لَيْسَتْ مَشْرُوعَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّهَا وَلَا رَسُولُهُ. Toutes les innovations en matière de religion qui n'ont pas été légiférées par Allah Azza wa Jal, Allah et son messager ne les aiment pas. Donc, Lorsque tu vois quelqu'un faire une innovation et tu lui dis avec preuve que cette action n'est pas légiférée, qu'Allah n'aime pas cette chose, il va te dire comment peux-tu apporter un tel jugement et dire Allah n'aime pas. Comment peux-tu entrer dans ce domaine-là? Et nous voyons des gens qui font le premier pas, mais après qui sont déstabilisés. Ils appellent à la sunna, ils disent « Attention, c'est une innovation. Cette innovation n'est pas acceptée par Allah. » Ils lui disent, en réponse, « Tu t'es mis à la place de qui ?» Pour dire que c'est accepté d'Allah ou non, seul Allah connaît. Tu t'es mis à la place de qui pour dire qu'Allah n'aime pas cette chose? Seul Allah connaît. Puis tu vois la personne déstabilisée par ses paroles. Et elle dit, tu as raison, je retire mes paroles. Non, il ne faut pas être déstabilisé. C'est une question d'aqida, c'est une question de croyance. Tu en es sûr, avec preuve du Coran et de la Sunna, que tout ce qu'Allah n'a pas ordonné, il le déteste, il ne l'accepte pas. Donc lorsqu'il te dit, tu t'es mis à la place de qui pour tenir de tels propos, réponds-lui, Wallah, Allah n'aime pas cette action. Wallah, Allah ne va pas l'accepter. Subhanahu wa ta'ala. Même si tu pleures toutes les larmes de ton corps, même si tu es le plus sincère, même si l'on voit de toi la motivation, la sincérité, la véracité, tu te fatigues pour rien. Allah ne l'acceptera pas. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas légiféré. Et ce qu'il n'a pas légiféré, il ne l'accepte pas. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahwarat » Celui qui fait une œuvre ne relevant pas de notre ordre, elle sera rejetée. L'imam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit donc « Puisque cette chose n'est pas aimée d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne peut pas faire partie des hasanat, non plus des bonnes actions, non plus de la bienfaisance. » كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. Tout comme les actions mauvaises que sont la turpitude, la fornication et autres par exemple, ne pourront jamais faire partie des bonnes actions, n'est-ce pas? Ne pourront jamais faire partie de la bienfaisance, ne pourront jamais faire partie des hasanat. Eh bien, pour la même raison, les innovations ne pourront pas faire partie des bonnes actions. Donc, il y a comme péché les innovations et les péchés, moindres à l'innovation. Et en réalité, les innovations sont pires que les péchés, que les simples péchés. Quand on dit un simple péché, c'est-à-dire quelque chose qui est une désobéissance à Allah Azza wa Jal, mais la personne qui a fait cette chose-là n'a pas dit cela fait partie de la religion, je me rapproche d'Allah à travers cela. Non. Alors que l'innovation, c'est une action par laquelle la personne pense se rapprocher d'Allah. L'innovation est plus grave que le simple péché, parce que la personne affilie ou attribue cette action à la religion d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةً حَتَّى يَدْعَ بِدْعَةً. Allah a voilé le repentir de tout innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Allah Azza wa Jal a voilé le repentir de celui qui innove dans la religion. Il ne peut pas se repentir jusqu'à ce qu'il abandonne cette innovation. Tant qu'il n'abandonne pas cette innovation, Allah ne le guidera pas dans le repentir. Parce que quand il fait cette innovation, il se croit en pleine religion. Donc comment voulez-vous qu'il arrête de faire une chose dont il est convaincu qu'elle le rapproche d'Allah Azza wa Jal? Il ne pourra se repentir que dès qu'il délaissera cette action-là qui est une innovation. Et là, vous voyez la gravité de l'innovation chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, toutes ces choses-là sont un égarement. Tout ce qui contredit le livre et la sunna est un égarement, même si la personne a une bonne intention. Et même si la personne pense faire quelque chose de bien, Allah azza wa jal ne l'accepte pas. L'imam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: wa amma qawluhu wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada wa qawluhu aslama wajhahu fa huwa ikhlasud din lillahi wahda wa kana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqul: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avait pour habitude d'invoquer Allah en ces termes. Il disait: ô Allah, fais que mon action tout entière, c'est-à-dire toutes mes actions, soit pieuse. Fais en sorte qu'à travers mes actions, c'est ton visage que j'ai recherché uniquement. Et fais en sorte que dans mes actions, il n'y ait aucune part pour personne d'autre que toi. Subhanahu wa ta'ala. Médite ici la parole ij'al. Fais en sorte. Fais en sorte que quoi ? Que mes actions soient conformes. Fais en sorte que mes actions soient sincères. Fais en sorte que dans mes actions, il n'y a pas la recherche de quelqu'un d'autre que toi. Tout ça pour que tu comprennes que la sincérité, le suivi de la sunna, la conformité, ne peut se faire que si Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que. Ce n'est pas quelque chose qui vient de toi, indépendamment d'Allah azza wa jal. Si Allah ne te facilite pas la sunna, tu ne l'atteindras pas. Si Allah ne t'accorde pas la sincérité, tu ne seras pas sincère. Et ce mot-là, ij'al, fais en sorte que, on le retrouve dans le Coran. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et fais en sorte que nous soyons un guide, un modèle pour les pieux. Les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala cités dans ces versets, parmi leurs invocations, ils demandent à Allah de faire en sorte qu'ils soient comme un modèle pour tous les autres, parmi les pieux. Et il y a plein de passages dans le Coran où on voit à chaque fois que celui qui invoque dit à Allah « Ij'al, ij'al, fais en sorte que, fais en sorte que. » Car si tu apprends, si tu es pieux, c'est parce qu'Allah a fait en sorte que. Subhanahu wa ta'ala, d'où l'importance de demander beaucoup à Allah de faire en sorte que. Subhanahu wa ta'ala. Cette invocation contient la mutaba'a, le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, comme nous dit le cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, lorsque Omar dit ij'al 'amali kullahu salihah, fait que toutes mes actions soient pieuses. Et les actions ne peuvent être pieuses que si elles sont conformes. Et cette invocation contient aussi la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Al-Fudayl ibn 'Iyad fi qawlihi liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. Le grand savant Al-Fudayl ibn 'Iyad rahimahullah, qui est devenu un imam, mais qui a derrière lui un passé de brigand de la route. Al-Fudayl ibn 'Iyad rahimahullah était un brigand. Il dévalisait les voyageurs. Il pillait les biens des voyageurs lorsqu'ils faisaient halte dans des plaines ou dans des endroits. Il venait la nuit et leur volait leurs biens. Jusqu'à un soir où il a voulu, comme à son habitude, dévaliser des voyageurs. Il s'est approché, mais que s'est-il passé? Il y avait un homme assis qui récitait le Coran et qui est arrivé à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, jusqu'à la fin du verset. Le temps n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur frémisse au rappel d'Allah? Il a pris ça comme un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis tant de temps, je vole, je dévalise les passagers, les voyageurs. Et là, au moment où je viens, je reçois ce signe d'Allah. J'entends un verset Où Allah Azza wa Jal dit, le temps n'est pas venu de se réveiller. Le temps n'est pas venu pour que aux croyants, pour que leur cœur se réveille devant le rappel d'Allah. Il a répondu à ce verset. Il a dit, si Allah, le temps est venu pour moi. Il s'est repenti à Allah, il s'est corrigé. Et il a rejoint le... Il a été étudié, il a appris. Et il fait partie des imams maintenant dans la sunna. Les savants, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il a dit de ce verset-là ? لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Dans le sens du verset, Allah nous a créé la nuit et le jour, ou la vie et la mort, pardon, la mort et la vie, afin de vous éprouver et de voir qui sera parmi vous le meilleur en œuvre. Le meilleur en œuvre. La question n'est pas celui qui fera le plus d'actions. La question est celui qui fera les meilleures actions. Et dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas simplement la quantité qui est voulue. Mais avant tout, c'est la qualité. C'est l'action sincère. Tu vois, la personne, elle prie depuis 30 ans, Qiyamul Layl, ou elle jeûne depuis 30 ans, mais elle n'est pas sincère envers Allah. Et tu en vois un autre qui a fait beaucoup moins, mais pourtant qui est aimé d'Allah et qui a accepté. Qu'est-ce qui a changé? C'est la sincérité envers Allah Azza wa Jal et le suivi de la sunna. Lui, quand il fait Qiyamul Layl, ses prières sont remplies de façons innovées de prier. Allah n'accepte pas. Pourtant, il en a fait beaucoup, pendant tant d'années. Mais ce n'est pas un facteur d'acceptation, sachez Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il fut interrogé sur ce verset, après avoir dit, ce verset signifie qu'Allah va nous éprouver pour voir qui sera le plus sincère et le plus conforme, il dit, quelqu'un dit, mais ô Abu Ali, qu'est-ce que plus sincère et plus conforme? Il répondit, l'action, si elle est faite sincèrement, mais elle ne suit pas la sunna, elle n'est pas acceptée. Et si elle suit la sunna, mais n'est pas sincère, elle n'est pas acceptée non plus. Et elle ne sera acceptée que lorsqu'elle sera vouée uniquement à Allah et faite conformément. Et ce qui est sincère, c'est ce qui est fait pour Allah seul. Quant à ce qui est conforme, c'est ce qui est fait d'après la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et cette parole-là est une parole immense de cet imam, rahimahullahu ta'ala, puisqu'il nous montre que ce qui est voulu, c'est d'être sincère envers Allah, subhanahu wa ta'ala, et de suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wassalam, pas le nombre, le grand nombre d'actions. J'ai fait beaucoup, j'ai été ici et là, j'ai fait telle et telle chose, j'ai donné tant, j'ai fait tant. Et après Allah t'accepte pas. Pourquoi? Parce que tes actions sont non conformes, elles sont mêlées à l'innovation, ou alors elles ne sont pas sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: فَإِنْ قِيلْ فَإِذَا كَانَ جَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ دَاخِلًا فِي اسْمِ الْعِبَادَةِ فَلِمَاذَا عَطَفَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا كَقَوْلِهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وقوله فاعبده وتوكل عليه وقول نوح اعبدوا الله واتقوه واطيعون وكذلك قول غيره من الرسل. Il va mentionner une objection qui pourrait être émise. Cette objection est la suivante. On vient de voir que toutes ces choses-là entre dans l'appellation de l'adoration. Toutes les bonnes actions entrent dans l'adoration. Mais s'il en est ainsi, pourquoi alors est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains versets, cite l'adoration, et après, il cite des choses qui, d'après votre définition, entrent dans l'adoration? C'est-à-dire, il suffisait, d'après eux, qu'Allah cite uniquement la mention de l'adoration et pas les autres choses qui viennent après. Ça va devenir clair, comme dans les versets suivants. Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Si vous dites que la demande d'aide est une adoration, pourquoi alors est-ce que dans le verset il y a « C'est toi seul que nous adorons » et « C'est toi seul, à toi seul que nous demandons l'aide » Puisque la demande d'aide est une adoration, le fait de dire « C'est toi seul que nous adorons » est suffisant, car la demande d'aide entre dans cette adoration citée dans cette première partie du verset. Pareil, dans le verset « Fa'abudhu wa tawakkal alayh » Adore-le donc et place en lui ta confiance. Si d'après vous, placer la confiance en Allah est une adoration, pourquoi est-ce que elle est citée alors que l'adoration a été citée déjà? Pourquoi cette répétition? Et d'autres versets encore. Et là, vous allez voir quelque chose que vous retrouverez beaucoup dans le Coran, dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ce que l'on appelle al-atf. En français, c'est la coordination. Lorsque tu dis, en français, hein, c'est pour vous faire le rapprochement. J'ai acheté un pain et un vêtement. Tu as fait une coordination. Tu as cité le pain et le vêtement. Ce sont les deux choses que tu as citées, les deux choses que tu as achetées. Ici, il y a kana'bud. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Pareil, il y a la coordination. N'est-ce pas? Vous vous rappelez des conjonctions de coordination? Parmi lesquelles il y a et, et. C'est l'équivalent de wa en arabe. La coordination dans le Coran, dans les versets, l'atf, implique plusieurs choses. Et c'est à cela, que va répondre l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Il nous dit, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhallah, nous dit, Al-Atfu yaqtadi al-mughayara. Wadhalika anna l'isti'anata dakhilatun fi qawlihi ta'ala, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. فلماذا عطف الاستعانة على العبادة؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن الشيء يعطف على ما هو داخل فيه من عطف الخاص على العام أحيانا لأجل الاهتمام بالخاص وإن كان داخلا فيه ولأهمية الاستعانة عطفت على العبادة فالعطف يقتضي الاختصاص وكما في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فالصلاة الوسطى داخلة في الصلاة فلماذا عطفها عليها قيل هذا من عطف الخاص على العام اهتماما به. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan va nous apprendre une des raisons pour lesquelles sont faites les coordinations dans le Coran comme cela. Comme c'est le cas ici, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. On retrouve souvent cela pour plusieurs raisons, parmi lesquelles la première, pour faire ce que l'on appelle « atful khassi ala al-am », pour citer la chose spécifique après avoir cité de manière absolue, de manière générale. C'est-à-dire, c'est toi seul que nous adorons de manière générale. Et particulièrement dans cette adoration que nous te vouons uniquement, nous te demandons l'aide. Particulièrement. Est-ce que vous avez compris? On cite au début la chose de manière absolue, ou alors de manière générale. Puis l'on précise particulièrement quelque chose qui à la base entre dans la généralité. On sort donc cette spécificité de la généralité très souvent pour en montrer l'importance, pour appuyer sa grandeur. La personne vous dit, j'ai 5 enfants, j'aime mes enfants. Et j'aime Ahmed. Ahmed étant l'un de ses 5 enfants. C'est-à-dire qu'il aime ses 5 enfants, Alaykum salam. Il aime ses cinq enfants, mais le fait qu'il cite Ahmed, après avoir dit déjà qu'il aime les cinq enfants, on a compris que parmi les cinq enfants, Ahmed. Mais avoir cité Ahmed montre que l'amour qu'il porte à Ahmed est plus grand que l'amour qu'il porte aux autres. Montre que l'amour qu'il porte à Ahmed est plus spécifique que les autres. Vous avez compris? C'est Allah seul que nous adorons. Donc c'est lui seul que nous invoquons. C'est lui seul que nous prions. C'est à lui seul que nous plaçons notre confiance. C'est à lui seul que nous demandons de l'aide. Maintenant, nous disons, c'est Allah seul que nous adorons. Et c'est à Allah seul que nous demandons de l'aide. Il y a ici une spécificité. Et dans ce cas-là, la spécificité, ou la raison pour laquelle on a spécifié la demande d'aide, c'est parce qu'on ne pourra jamais adorer Allah si Allah ne nous aide pas. Subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, Allah Azza wa Jal a cité la demande d'aide particulièrement après avoir cité l'adoration généralement. Je vous fais encore un rapprochement. La personne a cinq enfants. Elle doit porter des objets très lourds. Et dans ces cinq enfants, il y a le fameux Ahmed qui lui est corpulent, qui est fort, qui est capable de porter. Il dit, aidez-moi mes enfants. Ahmed, aide-moi. Vous avez compris ça? Il dit, aidez-moi mes enfants. Et il appelle ensuite Ahmed particulièrement parce que dans ses enfants, Ahmed est celui qui va lui apporter le plus d'aide. Vous avez compris? Là, qu'est-ce qu'il a fait? Le même principe que l'on retrouve ici. Et on le retrouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Soyez assidus aux prières et coordination et à la prière médiane. Et d'après un avis, la prière médiane, c'est salat al-asr. Salat al-asr. Il y a plusieurs avis dans la question de quelle prière s'agit-il. Mais d'après le hadith du prophète alayhi salatu wassalam dans la bataille de al-Khandaq al-Ahzab, il a cité al-Wusta pour parler du Asr alayhi salatu wassalam. Soyez assidus aux prières et à la prière médiane, la prière du Asr. Qu'est-ce que cela veut dire? Si Allah dit soyez assidus à la prière, entre dans les prières la prière médiane. Et pourquoi alors est-ce que la prière médiane a été citée ici? Après la généralité, en raison de son importance. Accordez-lui particulièrement une importance à celle-ci. Accordez l'importance à l'adoration et particulièrement à la demande d'aide. Accordez l'importance à la prière et particulièrement à la prière médiane. Donc quand ici on dit quand la personne dit elle pose cette question. Si vous dites que toutes ces choses-là, tout ce qu'Allah aime, entre dans l'adoration, alors pourquoi avoir cité l'adoration puis la demande d'aide? Pourquoi avoir cité l'adoration puis la confiance en Allah? La réponse est que quand une coordination est faite, il y a derrière celle-ci des sagesses parmi lesquelles montrer la spécificité et la grandeur de cette chose qui a été citée spécifiquement après la généralité, bien qu'elle entre déjà dans la généralité. J'espère avoir été clair. En ce qui concerne le verset sur At-Tawakkul, fa'budhu wa tawakkal alayh, adore-le et place en lui ta confiance. فالتوكل داخل في العبادة فلماذا عطفه عليها لأنه من عطف الخاص على العام اهتماما به وتأكيدا له. Pourquoi est-ce que la confiance a été citée après la prière, après l'adoration, adore-le et place ta confiance en lui? La réponse, cela a été fait pour montrer l'importance de la confiance en Allah dans l'adoration d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pareil pour le verset où Nuh, alayhi salam, s'adressant à son peuple, leur dit « U'budullah, adorez Allah, wattaquhu » et « faites preuve de piété envers lui, donc obéissez-lui, wa'ati'un » et « obéissez-moi ». Et attention, en français, quand il y a la coordination « et » que il y a plusieurs choses, on ne répète pas le « et ». On le met que en dernier. J'ai acheté un sac, une baguette et un vêtement. N'est-ce pas? En arabe, le « et » on le met après chaque mot. J'ai acheté un sac et une baguette et un vêtement et, etc. Ça, c'est bon à savoir. Pourquoi? Notamment pour la traduction. Le traducteur, s'il ne connaît pas ces choses-là, s'il ne connaît pas ces précisions-là, il va mal traduire. Il va lire en arabe, qui est ici, on a « adoré Allah » et « craignez-le » et « obéissez-moi » et il va le traduire en écrit comme ça. Sauf qu'en français, « et » on le met une seule fois à la fin. Ça c'est une parenthèse, mais elle est utile quand même. وَكَذَلِكَ قَوْلُ غَيْرِهِ مِنَ الرُّسُولِ et la parole d'autres que Nuh alayhi salam parmi les messagers. Donc qu'est-ce que l'on répond à tout ça? قِيلَ هَذَا لَهُ نَظَائِرُ كَمَا فِي قَوْلِهِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Je préfère m'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on reprend demain. بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم